Balzac, portrait physique, par Émile Faguet. Honoré de Balzac est un romancier du XIXe siècle qui vaut surtout par ses descriptions et par la vigueur des types d'hommes et de femmes qu'il a tracés. Voici quelques portraits physiques d'hommes et de femmes de petite bourgeoisie qu'il a dessinés avec un art minutieux à la fois et puissant. Madame Beaucaire, hôtesse d'une pension bourgeoise. Bientôt la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées, sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont Madame Beaucaire respire l'air, chaudement fétide, sans en être écœurée. Sa figure fraîche, comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés, dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer enfrognement de l'escompteur. Enfin, toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. En cette demi-page, Balzac explique toute une partie et très importante de son art. Il a toujours voulu marquer fortement les rapports qui existent entre l'être humain et son habitat. Le lieu qu'on habite exerçant son influence sur celui qui y demeure, le pétrissant pour ainsi dire et y laissant sa marque. De son côté, l'être humain modifiant et aménageant ses entours à sa ressemblance, et de tout cela résultant une harmonie, une concordance qui, le temps aidant, devient parfaite. Et c'est pour cela que Balzac a toujours peint les êtres humains dans leur cadre, ce que font tous les écrivains, du reste, mais ce qu'il a fait avec plus de précision et plus d'exactitude pittoresque que personne. Gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour en taffetas vert, cerclé par du fil d'archal qui aurait effarouché l'ange de la pitié. Son châle à franges maigres et pleurardes semblait couvrir un squelette, tant les formes qu'il couvrait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes féminines? Elle devait avoir été jolie et bien faite. Était-ce le vice, le chagrin ou la cupidité? Avait-elle trop aimé? Avait-elle été marchande à la toilette ou seulement courtisane? Son regard blanc donnait froid. Sa figure abougrie menaçait. Elle avait la voix clairette d'une cigale criant dans son buisson aux approches de l'hiver. Ce qui fait l'unité de ce portrait, ce qui le rassemble tout entier autour d'une impression, d'une sensation unique, c'est l'idée de froid. Mademoiselle Michonneau est une de ces personnes qui donnent froid. Elle est glaçante. Elle a froid elle-même sous ses vêtements maigres comme elle. Elle est pareille à un squelette. Elle a été rongée comme par un acide. Son regard blanc est comme le reflet d'une eau froide ou d'un mica de givre. Sa voix est froide, clairette et aiguë comme celle d'une cigale. Mais comme la cigale rappelle l'été, l'auteur s'empresse d'ajouter « aux approches de l'hiver ». Mademoiselle Michonneau laisse derrière elle, dans l'air qu'elle a traversé, un sillage d'ondes glaciales. Mademoiselle Michonneau est maigre, décharnée, aigre et froide comme l'hiver. Mademoiselle Michonneau, c'est la bise. L'impression unique résultant de 20 détails concordants est singulière. Monsieur Poiret était une espèce de mécanique. En l'apercevant s'étendre comme une ombre grise le long d'une allée du jardin des plantes, la tête couverte d'une casquette flasque, tenant à peine sa canne d'ivoire jaunie dans sa main, laissant flotter les pans flétris de sa redingote qui cachait mal une culotte presque vide et des jambes en bas bleu qui flagellaient comme celles d'un homme ivre, montrait son gilet blanc sale et son jabot de grosse mousseline recroquevillée qui s'unissait imparfaitement à sa cravate noire autour de son cou de dindon. Bien des gens se demandaient si cette ombre chinoise appartenait à la race audacieuse des fils de Japette qui papillonnent sur le boulevard des Italiens. Quel travail avait pu le ratatiner ainsi? Ce qu'il avait été, mais sans doute employé dans un bureau. Ceci, c'est le portrait d'un homme qui n'a jamais été qu'un rouage. Le premier mot l'indique. C'était une espèce de mécanique. Tous les autres se rapportent et nous ramènent à cette idée. Physiquement, il n'est qu'une ombre, Il ne tient pas de place. Il glisse entre deux couches d'air très rapprochées et qui ne sont pas sensiblement dérangées par son passage. Il existe aussi peu qu'il est possible d'exister, n'ayant jamais été qu'un feuillet à très peu près inutile et aplati entre deux autres feuillets du livre social. Sa mise n'est pas complètement négligée, mais elle est surannée et elle est piteuse. Surannée parce que jamais un changement de position sociale n'a obligé celui qui la porte à la changer. Piteuse parce que la pauvreté du personnage l'oblige à ne pas la renouveler, et que sa misère physiologique apparaît au travers d'elle et l'accuse. Épave sociale restée propre et non sans dignité, il a un jabot, mais pitoyable et surtout ridicule, tel est M. Poiret. Mademoiselle Victorine Taillefer. Quoique Mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, et qu'elle se rattachât à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une tristesse habituelle, par une contenance gênée, par un air pauvre et grêle, néanmoins son visage n'était pas vieux, ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste aux feuilles jaunies fraîchement planté dans un terrain contraire. Sa physionomie roussâtre, mal écrit, ce n'est pas la physionomie qui est roussâtre, c'est le visage. Ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince, exprimaient cette grâce que les poètes modernes trouvent au statut du Moyen-Âge. Ses yeux gris, mélangés de noir, exprimaient une douceur, une résignation chrétienne. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jeunes. Elle était jolie par juxtaposition. L'auteur veut dire sans doute qu'entourée comme elle l'était et par comparaison avec son entourage, elle paraissait jolie. Heureuse, elle eût été ravissante. Le bonheur et la poésie des femmes. Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâli, si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli, eussent vermillonné ses joues déjà creusées, si l'amour eût ranimé ses yeux tristes, Victorine aurait pu rivaliser avec les plus belles jeunes filles. Le mot révélateur pour l'explication de ce texte, c'est la comparaison de Victorine avec un arbuste fraîchement transplanté dans un terrain contraire et dont les feuilles ont jauni. Victorine a une mauvaise santé accidentelle. Rousse aux yeux presque noirs, elle a un fond de santé robuste. Elle est jolie, elle est bien faite. Mais la pauvreté l'a transportée dans un habitat malsain. Elle se flétrit. Mince, elle est trop mince. Jolie, elle n'a pas de physionomie. Gracieuse, elle n'a pas de sourire. Elle est belle, pour ainsi dire, en dedans. Il lui manque l'épanouissement que seul peut favoriser le bonheur ou l'illusion qu'on est heureuse. C'est une fleur à laquelle la terre refuse la sève. Elle est jeune, et cela soutient et défend. Avec les années, elle deviendra une Mademoiselle Michonneau et l'abat-jour au fil d'Archal attend ses yeux gris mêlés de noir qui auront beaucoup pleuré. C'est un arbrisseau fraîchement transplanté dans un terrain contraire. Tout est là. Toute la description de la jeune fille se ramène à cette explication, charmante du reste, en sa grâce mélancolique. Monsieur Vautrin. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, à favori peint, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « Voilà un fameux gaillard ». Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières simples et liantes. Sa voix de basse-taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait pas. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquer et à quelques pensionnaires, mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il l'imprimait de crainte par certains regards profonds et pleins de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer, et tel qu'il n'aurait pas reculé, devant un crime pour sortir d'une position équivoque. comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une bannière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Vautrin est un bandit et c'est un homme de puissant cerveau. Mais il importe, pour la conduite de son roman, que l'auteur ne dise pas tout de suite qu'il est un bandit. À cause de cela, il le présente seulement d'abord comme un homme inquiétant. Il est fort, physiquement robuste, fait pour l'endurance. Il est bon garçon, serviable, gai, largement joyeux, réconfortant. On ne peut pas s'empêcher d'avoir de la sympathie pour lui. On lui est reconnaissant de sa bonne santé. C'est très humain. Mais il est secret. On ne sait rien de lui, ni de ce qu'il a fait. Et des personnages plus éveillés que les hôtels de la pension Vauquer en concevraient quelque ombrage. Inconsciemment du reste, ils sont un peu terrorisés, sinon de sentir qu'ils ne savent rien de lui, du moins de sentir qu'il sait tout ou devine tout d'eux. De plus, il a certains regards profonds et très pénétrants, et une certaine dureté de physionomie, quand il ne rit pas, qui font contraste avec ses manières accommodantes et qui, à de moins engourdies, révéleraient qu'elles sont factices. Et enfin, il est bien adroit à démonter et à remonter les serrures. Tous ces traits constituent le personnage inquiétant, non pour les pensionnaires, mais pour le lecteur, et le mettent sur la voie de soupçonner le bandit, ce qui est ce que veut l'auteur. En attendant, le portrait est achevé, d'ores et déjà, pour donner l'impression d'un homme énergique et adroit, résolu et habile, maître de lui, autonome, sans préjugés et sans manie, et qui ne peut guère être autre chose qu'un brigand ou un policier. Le portrait, fort sobre, tracé à grandes lignes précises et creusées, est de toute beauté. Le père Goriot. Le père Goriot est un ancien vermicellier, assez riche, que ses deux filles qu'il adore réduisent peu à peu à la misère par les libéralités qu'elles exigent de lui. De là, deux portraits. M. Goriot, en très bon point quand il arrive à la pension Vauquer. Le père Goriot, très ravalé et déprimé 3 ans après. M. Goriot. Goriot vint, muni d'une garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne se refuse rien en se retirant du commerce. Madame Vauquer avait admiré 18 chemises de demi-hollande, dont la finesse était d'autant plus remarquable que le vermicellier portait sur son jabot dormant 2 épingles unies par une chaînette, dont chacune était montée d'un gros diamant. Habituellement vêtu d'un habit bleu barbeau, il prenait chaque jour un gilet de piqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme, en forme de poire, et proéminent qui faisait rebondir une lourde chaîne d'or garnie de breloques. Sa tabatière, également en or, contenait un médaillon plein de cheveux qui le rendait en apparence coupable de quelque bonne fortune. Lorsque son hôtesse l'accusa d'être un galantin, il laissa errer sur ses lèvres le gai sourire du bourgeois dont on a flatté la vanité. Tout le portrait est celui du bourgeois cossu et vulgaire. Il a aimé, il aime encore le linge très fin, l'habit des hommes de la haute bourgeoisie parisienne, celui qui se porte au boulevard et au bois. Le gilet blanc, qui devant être changé tous les jours, marque un certain état de fortune et l'absence du souci de l'économie. Mais surtout, ce que s'interdit le vrai élégant, les bijoux, qui sont ostentatoires et qui sont comme l'enseigne à attirer les regards et la considération. Il les a tous, la chaîne d'or et lourde, les breloques, les épingles de cravate en gros diamants, la tabatière d'or avec médaillon. Il porte sur lui cette petite fortune qui constate, proportionnellement, qu'il en a une grande. C'est un peu pour qu'on le sache. C'est beaucoup pour se le rappeler à lui-même. Il regarde ses breloques ou sa tabatière comme il se regarderait dans une glace. Tout dit en lui, je suis riche et j'ai toujours peur d'oublier de m'en souvenir. Du reste, quoique sobre, dès cette époque, il est gras, frais comme l'œil, à joues pleines et fraîches, jeune encore d'allure et de démarche et de prestance. Quoique le larmier de ses yeux fût retourné, gonflé et pendant, ce qui l'obligeait assez fréquemment à les essuyer, Madame Vauquer lui trouva l'air agréable et comme il faut, et son mollet charnu, saillant, autant que son long nez carré, pronostiquait des qualités morales que confirmait la face lunaire et naïvement niaise du bonhomme. Tous les matins, le coiffeur de l'école polytechnique venait l'accommoder et lui poudrait les cheveux. C'était le bourgeois de moyenne classe du temps de Louis-Philippe aspirant à la haute bourgeoisie et la copiant. Le père Goriot. 3 ans après, le père Goriot un jour apparut sans poudre. Son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Sa physionomie, que des chagrins secrets avaient insensiblement rendue plus triste de jour en jour, semblait la plus désolée de toutes celles qui garnissaient la table. Quand son trousseau fut usé, il acheta du calicot à 14 sous l'aune pour remplacer son beau linge. Ses diamants, sa tabatière d'or, ses bijoux disparurent un à un. Il avait quitté son habit bleu barbeau, tout son costume cossu, pour porter, été comme hiver, une redingote de drap marron grossier, un habit de poil de chèvre et un pantalon gris en cuir de laine. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure, bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois, se rida démesurément, son front se plissa, sa mâchoire se dessina. Il ne se ressemblait plus. Le bon vermicelier de 62 ans qui ne paraissait pas en avoir 40, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue égrillarde réjouissait les passants, qui avait quelque chose de jeune dans le sourire, semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer. Ils avaient pâli, ne larmoyaient plus, et leur bordure rouge semblait pleurer du sang. Aux uns il faisait horreur, aux autres il faisait pitié. De jeunes étudiants en médecine, ayant remarqué l'abaissement de sa lèvre inférieure et mesuré le sommet de son angle facial, le déclarèrent atteint de crétinisme après l'avoir longtemps houspillé sans en rien tirer. Tous les traits de ce second portrait, en opposition directe avec ceux du premier, visent une misère physiologique en tant qu'elle est l'effet et le signe d'une misère morale. Amaigrissement, plissement du front, des joues, de la chair autour des mâchoires, face terreuse, au lieu du mollet charnu et saillant qui suppose une marche ferme, l'allure vacillante. Aucun trait qui dénonce une maladie proprement dite, aucun qui ne suggère l'idée d'une profonde affection morale, rongeante et lentement dévastatrice. Le dernier mot n'est que l'exagération d'une observation exacte et qui résume tout le morceau. Les jeunes étudiants déclarent Goriot atteint de crétinisme, parce qu'il l'est d'une de ces idées fixes qui, sans rendre idiot, vous donnent toutes les apparences de cela. Remarquez aussi le premier mot, Goriot sans poudre. Ceci avant tout le reste, d'abord parce que la suppression de la poudre a été un des premiers retranchements, un des premiers sacrifices que Goriot se soit imposé. Ensuite et surtout parce que ce changement, le seul qui ait été brusque et soudain, a attiré l'attention des pensionnaires sur tous les autres qu'ils avaient à peine remarqués et a fait qu'ils se sont dit « C'est vrai, depuis 3 ans il a bien changé, il a maigri, il s'est décoloré, il s'est ratatiné et tout le reste. » Quant à l'effet produit sur l'entourage, ce qui complète le portrait, car on est ce qu'on peut être, mais pour le lecteur l'impression qu'un être fait sur ceux qui l'environnent est un renseignement très précieux et comme définitif. Quant à l'effet produit sur l'entourage, le voici. Il était tombé dans un état méditatif que ceux qui l'observaient superficiellement prenaient pour un engourdissement sénile. Chacun, dans la pension, avait des idées bien arrêtées sur le pauvre vieillard. Il n'avait jamais eu ni femme ni fille. L'abus des plaisirs en faisait un colimaçon. Un mollusque anthropomorphe à classer parmi les casquetifères, disait un employé du muséum. Poiret était un aigle, un gentleman auprès de Goriot. Poiret parlait, raisonnait, répondait. Il ne disait rien, à la vérité, en parlant, raisonnant ou répondant, car il avait l'habitude de répéter en d'autres termes ce que disaient les autres. Mais il contribuait à la conversation. Il était vivant, il paraissait sensible. Tandis que le père Goriot, disait encore l'employé du muséum, était constamment à zéro réaumur. En un mot, Goriot, pour employer l'énergique et si juste expression populaire, est absorbé. Quelque chose en lui l'attire à soi et supprime toute expansion, toute sortie, tout mouvement, si petit qu'il soit, vers le dehors. Il n'est plus sensible à ce qui vient du dehors. Il ne paraît plus vivant. Il est au-dessous d'un imbécile constaté et avéré tel. Car l'imbécile est passif. On l'atteint, il répercute. On lui parle, il répond comme un écho. Il est passif. Goriot n'est pas même passif. Il ne subit plus le contact des objets extérieurs. Toute communication entre le dehors et lui est comme coupée. Pourquoi ? Les pensionnaires de la maison Vauquer répondent à leur manière. Le lecteur se le demande avec intérêt. Et c'est en quoi le portrait, en même temps que curieux en soi, est extrêmement adroit comme introduction au roman et invitation à le lire. Balzac est un portraitiste consommé en même temps qu'il est un romancier très habile. Émile Faguet.